Salut, je suis Gary Beneza et je vous emmène dans les coulisses du Web3. Finances décentralisées, NFT, métaverse et autres innovations dans la blockchain, je pars à la rencontre des principaux acteurs francophones du Web3 pour comprendre comment ils ont lancé leur projet et comment ils sont en train de construire leur succès au quotidien. Découvrez tout de suite un nouvel invité passionnant qui réinvente le monde d'aujourd'hui grâce au Web3. C'est parti! Salut Robin, bienvenue dans les coulisses du Web3.
Salut Gary, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Tu es CEO de Billy. Est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu vis et ce que tu as fait avant Billy?
Bien sûr. Alors écoute, moi je viens d'avoir 30 ans. Je suis ingénieur de formation. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est IA, machine learning, big data à Télécom Paris il y a quelques années maintenant. Et puis j'ai rejoint une super ESN qui s'appelle Octo Technologies qui a été rachetée par Accenture. Donc j'ai été tech là-bas pendant pas mal d'années avant de monter Billy il y a bientôt un an maintenant. Moi, pour la petite histoire, je suis originaire de Paris et j'ai rencontré Étienne, mon associé à Lille, pendant nos études.
Ça marche. Est-ce que tu peux du coup expliquer ce que fait Billy?
Ouais. Chez Billy, nous on développe des solutions de billetterie et d'engagement des fans dans le domaine du live, que ce soit la musique, le sport, le luxe, les galeries d'art. Notre particularité, c'est qu'on émet des billets de concert sous la forme d'un NFT. Et le côté assez vertueux de ça, c'est qu'on va permettre aux ordinateurs de contrôler le marché primaire et le marché secondaire, avec les smart contracts qui vont encadrer leur vente. On va apporter de la sécurité parce que les gens ne vont plus pouvoir revendre trois fois le même billet, ce qui a pu se passer au Stade de France il y a 6-7 mois pendant la finale de la Ligue des Champions, où 3000 personnes avaient acheté des faux billets. Donc c'est le premier pilier de Billy autour de la sécurité du contrôle. Le second pilier de Billy, ça va être un pilier autour de l'engagement, parce qu'on voit un peu comme nos billets comme des clés qui vont déverrouiller des expériences complémentaires, même après les événements, pour prolonger l'expérience des fans. Donc ça devient un peu comme des cartes de membre. Le troisième pilier de Billy, c'est un pilier autour de la créativité, parce qu'on peut retrouver le plaisir de collectionner en fait ces billets. Comme il y a 10-15 ans, des gens les mettaient dans une petite boîte à chaussures ou l'encadraient sur un mur en souvenir, un attache émotionnel qu'on avait au moment qu'on a vécu. Bah, nous, de manière digitale, on va transformer les billets en œuvres d'art et libérer un peu leur potentiel créatif. Donc c'est ça, Billy. Une billetterie créative, vertueuse et portée sur l'engagement.
Ça marche. Avant qu'on parle un peu des coulisses de la création de Billy, j'aimerais rebondir sur l'exemple dont tu parlais. Je pense qu'il y a une bonne entrée en matière. Donc pour rappel, il y a quelques mois, il y a 7 mois, comme tu disais, il y a eu la finale de la Ligue des Champions qui a été organisé au Stade de France. Je crois que c'était Liverpool, Real de Madrid, mais corrige-moi si je me trompe. Et donc, ça a été, comme tu disais, un fiasco un peu en termes d'organisation, notamment au niveau de la billetterie, parce que, comme tu disais, il y avait eu des fake billets. Le problème, c'est quoi? C'est que sur des plateformes actuelles comme TicketSwap, finalement, c'est hyper simple d'uploader plusieurs fois le même PDF. Est-ce que tu sais déjà s'il y a un contrôle au niveau de ces plateformes-là? Et pour rappel, TicketSwap, c'est une plateforme de revente de... tickets d'événements, que ce soit pour des concerts, des événements sportifs, ou en général, tu uploads directement ton ticket au format PDF.
Ouais, bah c'est marrant que tu parles de TicketSwap, parce que pour la petite histoire, en fait, nous, on l'a vécu avec mon associé à un concert, à un festival qui s'appelle le Dekmantel à Amsterdam. Mon colocataire avait acheté un billet sur TicketSwap, et quand il arrive au festival, il scanne son billet, on lui dit « Désolé, monsieur, ce billet a dû être scanné il y a 25 minutes. » parce que quelqu'un avait probablement revendu plusieurs fois le même billet sur plusieurs plateformes, et vu que les systèmes actuels n'ont pas de traçabilité, de transparence, c'est compliqué d'authentifier que tu es bien le détenteur du billet. Donc la blockchain qui apporte justement cette traçabilité, cette transparence, va nous permettre d'empêcher ces gens de faire ça. Et dis-toi, pour des gros événements sold out, bah évidemment il y a du marché noir, il y a de la revente sur Facebook, sur eBay, sur le bon coin parfois. Donc nous, on vient vraiment permettre d'encadrer tout ça, parce que notre tiers de confiance, en fait, ça devient la blockchain et ça devient plus une boîte privée. Voilà.
On reviendra un peu sur le fonctionnement. Avant ça, donc je voudrais un peu parler de comment tu as créé Billy. Déjà, comment tu es arrivé dans le Web3?
Comment on a créé Billy? Nous, on avait cette envie d'entreprendre avec mon associé, et puis on voulait se lancer dans un secteur qui nous plaise. Comme je l'ai dit un peu avant, on s'est rencontrés nos études en faisant en teuf avec mon associé, donc on avait ce partage la Fed, des festivals, House Techno à l'époque. On est des gros consommateurs d'événements culturels. Donc pour nous, c'était assez évident de se lancer là-dedans. Et puis avec mon background de tech, j'ai toujours aimé l'innovation. Donc quand j'ai vu un peu, je savais 5-6 ans maintenant que je suis dans la. Je m'intéresse beaucoup aux crypto, à la blockchain. Donc quand j'ai vu les NFT, je me suis dit, c'était le moment pour nous de nous lancer dans le Web3.
Et par rapport à l'idée de Billy, j'imagine ouais, que finalement vous avez dit, bon, y a pas encore d'acteurs sur ce marché, il y a de la place à, y a de la place à prendre, let's go.
Ouais, exactement. Bah, quand on a fait nos études de marché, on a vu qu'il y avait quelques acteurs, mais que c'était très, 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 très embryonnaire à l'époque. Maintenant, il y a quelques boîtes qui commencent à émerger avec des idées cousines, on va dire, avec un positionnement plus ou moins proche. Mais le marché de la billetterie, c'est un très, très gros marché. Il est multiverticalisé, pardon. T'as la musique, le sport, les théâtres, les galeries. Donc, il y a plein de positionnements à adopter et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, surtout pour un nouvel acteur qui va apporter une proposition de valeur plus sécurisée, un peu plus cool, plus créative et portée sur les artistes, les organisateurs et les salles.
Comment vous y êtes pris pour créer Billy, pour créer un peu la première version? Ça a été quoi un peu les grandes étapes?
Alors, bah, Billy a 11 mois, bientôt un an. Je dirais on est trois phases chez Billy. Une première phase, évidemment, nous on n'était pas de l'industrie du ticketing, donc pendant 2 3 mois on a pas mal essayé d'interroger des acteurs de l'écosystème pour affiner un peu notre proposition de valeur. Ensuite on a senti une traction, donc on a commencé à développer un POC, un prototype. Donc ça nous amène vers mai-juin. En juin, on a fait notre premier événement où 100% de la billetterie avait été vendue sous forme de NFT.
C'était quoi
C'était
comme événement d'ailleurs?
à Orléans. C'était une mouse party avec Mehdi Maizi, organisée par Renouveau à Orléans. Donc c'est une super teuf. C'est moi qui ai contrôlé l'entrée avec notre app Cannes pour la petite histoire, les billets des gens. Donc après cette phase de prototype, on a embauché des personnes pour commencer à accélérer. Et on a entamé une première phase de build. On va dire. Première phase du build qui nous a amené vers, je dirais, fin septembre. On avait un premier produit avec toutes les fonctionnalités qu'il fallait. Et on a commencé à ce moment-là à commercialiser le produit à partir de fin septembre, je dirais. Voilà, donc là, ça fait 3 mois. On est très content. On a eu la chance de pouvoir signer des clients dans 4 pays déjà, aux USA, au UK, en Belgique, en France. Donc on a fait une vingtaine d'événements. Donc c'est encore le début. Là, on peaufine la V2 du produit.
Pas mal de questions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà par rapport aux événements dans UK, aux US, c'est quel type d'événement en général?
Alors, nous, on n'a pas pour ambition d'être de se positionner sur une verticale. On veut plutôt être cross vertical. L'événement aux US, c'était pendant Art Basel à Miami. C'était avec Tezos et Serpentine. Donc c'est un événement de Tezos fois Serpentine. Serpentine, c'est une galerie d'art. Et Tezos, bah, c'est la blockchain sur laquelle on a commencé avec Billy.
Et une autre question, donc tu disais que vous avez embauché après des développeurs, après la phase de POC. Comment vous avez embauché ces développeurs? C'est-à-dire que vous étiez profitable à partir du jour 1 où vous avez levé des fonds?
Comment on a trouvé l'argent?
Ouais, voilà.
Écoute, oui, on a rejoint déjà un startup studio qui s'appelle Pirates Labs qui a mis des sous dans Billy, qui ont été nos premiers investisseurs. Ensuite, on a fait un tout petit tour en love money avec des très très proches famille et amis qui nous ont permis de lever en tout 230 000 euros. Donc c'est le tout début de Billy, on a lancé ça. Et puis là, on a complété après un petit tour avec des business angels en smart money qu'on est en train de closer en ce moment même d'ailleurs. Voilà. Et l'ambition, c'est d'aller lever des fonds en seed en 2023.
Ok. Et par rapport au Business Angels dont tu parlais actuellement, est-ce que tu peux divulguer des montants ou c'est un peu secret encore?
On communique pas encore là-dessus.
Ok, ça marche. Et Pirates Lab, si je dis pas de bêtises, c'est je crois un incubateur où il y a Bilal de Dogami, c'est ça, qui est, je crois, advisor de
Exactement, ouais.
Dogami. Ok.
Ouais, exactement. Ouais. Bilal, c'est un investisseur de Billy. Et pour la... bon, c'est un ami surtout. Hein. Nous, Bilal, on s'est rencontrés. On était en stage ensemble à Octo, à Accenture. C'était un Accenture, j'étais un Octo. Et bon, devenu pote, on faisait des babies ensemble. Et en fait, on s'est hyper bien entendu. Et à l'époque, c'est marrant. Il avait son premier projet entrepreneurial qui s'appelait Equisafe. Et il cherchait un tech. Et bon, moi, je sortais d'école. J'étais pas prêt, tu vois, à être CTO d'une boîte. Donc je lui dis, mec, je suis pas prêt, voilà. Donc lui, il est parti très 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 vite. Donc là, je crois qu'il a monté trois boîtes déjà, avec Equisafe, Dogami, Pirates. Et je suis très content de le rejoindre, de le retrouver après quelques années.
D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que Equisafe, hein, c'est une boîte qui permet de créer des véhicules d'investissement qu'on appelle des SPV pour faciliter l'investissement, je crois, à plusieurs dans des boîtes. Oh.
Exactement. Nous, on fait toutes nos levées de fonds sur Equisafe.
Ok, excellent. Comment toi, tu t'y es pris pour trouver tes premiers clients avec Billy une fois que vous aviez ce prototype, t'es allé voir des organisateurs que tu connaissais ou comment vous y êtes pris?
Ouais, bien sûr. Bah, alors, il y a évidemment, je dirais qu'il y a deux principales choses qu'on a faites. Évidemment, on a fait un peu de RP pour se faire connaître. On a participé à des salons professionnels dans l'écosystème. On allait à des événements. On a rejoint des groupes, des associations pour tout simplement se faire connaître. Hein. Et après, on a surtout, on s'est entouré, on va dire, d'une équipe qui vient du milieu. Notamment quelqu'un qui s'appelle Alex Nobu, qui nous a présenté bon, beaucoup beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui était dans l'industrie du disque. Il était un ancien de Warner. C'était le premier mec qui a signé Orelsan à l'époque. Et lui, ça fait 20 ans qu'il est dans l'écosystème, donc il connaît tout le monde et il a tout. On a eu un gros fit humain. Il nous a rejoint vers février-mars. Donc au tout début de l'aventure, il n'y avait rien. On avait une présentation, on avait un deck à l'époque. Il a cru en la team. Donc il nous a ouvert beaucoup de portes. Et puis après, il y a deux autres personnes qui nous accompagnent, c'est Adrien et Agoria. Agoria, c'est un artiste Web3, DJ, qui lui aussi nous présente pas mal de personnes. Donc c'était très très humain de pouvoir rencontrer tous les pros.
D'ailleurs, c'est intéressant comment les artistes, faut que ce soit les managers ou les artistes, ont perçu la proposition de valeur de Billy au début.
Bah écoute, ça dépend un peu du persona auquel tu t'adresses. Quand tu parles aux producteurs, donc ils vont peut-être plus être intéressés par le côté anti-fraude, je pourrais bénéficier de la revente du marché secondaire avec les royalties, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Certains artistes, bah pour eux, tu vois, le billet, c'est un espace d'expression où ils vont pouvoir être créatifs. Donc c'est un nouveau médium de communication presque, hein. Le billet, tu vois, un billet collector, où nous on fait des billets 3D, on fait de la vidéo, on va vraiment réinventer ce qu'est la notion d'un billet, un digital. Donc j'ai pas de réponse unique, mais ça dépend un peu des différentes typologies de personnes. Après, dans le monde de la musique, surtout, c'est pas les artistes qui vont choisir leur billetterie, c'est plutôt les tourneurs. Les tourneurs, c'est ceux qui sont responsables de leur tournée dans toute la France. Donc ça va être eux nos interlocuteurs.
C'est intéressant ce que tu dis, que ouais, un ticket, enfin un billet, c'est pas juste un QR code sur un pauvre bout de papier ou sur ton app que tu ouvres 2 minutes. Ça peut être vraiment quelque chose de joli, qui peut être au format vidéo, qui peut te donner des avantages aussi. Et c'est important, et c'est intéressant aussi, j'avais pas pensé à la notion de royalties, mais c'est vrai que aujourd'hui, moi, en tant qu'utilisateur, si demain je revends mon ticket d'un concert sur TicketSwap, l'émetteur du ticket, qui est l'organisateur, ne va pas toucher de royalties sur le marché secondaire. Alors que là, avec le NFT, c'est quelque chose qui est possible. Et c'est vrai que parfois, ça peut arriver, je sais pas, que je vais acheter une place 50 € et après, les prix s'envolent. Alors parfois, par exemple, sur TicketSwap, c'est plafonné peut-être au double, je sais plus, au montant du ticket. Mais sur des plateformes comme de revente comme Viagogo, tu peux avoir des prix qui vont du triple au quadruple, voire beaucoup plus. Effectivement, tout va dans la poche de l'utilisateur qui revend son ticket et rien du tout dans la poche de l'organisateur. Donc, effectivement, c'est un autre point intéressant. Bah, je te propose peut-être de passer un peu au fonctionnement du produit. D'ailleurs, comment ça fonctionne aujourd'hui l'émission de tickets via Billy?
Alors, nous, à chaque fois qu'on va créer un événement, on va déployer un smart contract sur la blockchain. Un smart contract, ça va permettre de paramétrer et de gérer toute ta vente primaire et ta vente secondaire. c'est un bout de code avec des règles en fait qui va être écrit sur la blockchain, pour être un peu caricatural, et qui va à chacune des transactions venir la valider ou l'invalider. Donc si le prix est supérieur au prix max, ça va invalider et empêcher la revente. Si la revente est autorisée dans les bornes, on va potentiellement avoir des royalties qui vont être reversées automatiquement à une ou plusieurs personnes. Donc c'est ça qu'on fait chaque fois qu'on crée un événement chez Billy. Donc on a un back-office organisateur pour ça. En parallèle de ça, on a évidemment l'application mobile iOS Android et notre site d'achat-revente, notre marketplace, qui est plutôt B2C, donc destiné à l'utilisateur final, qui va leur permettre de venir acheter et revendre en sécurité leurs billets.
Donc admettons que je sois un événement, donc j'organise mon événement avec Billy, et je fais l'émission de mes tickets sur Billy, mais utilisateurs entre guillemets, hein, donc les fans qui vont par exemple assister à mon concert, à mon événement, ils vont pouvoir acheter donc leur place directement sur la marketplace de Billy. Donc c'est une marketplace classique, hein, comme ça pourrait être le cas avec Digitik, dont j'oublie le nouveau nom, qui est
Cticket.
Ouais. Donc par exemple, ils peuvent directement acheter leur ticket. Est-ce que d'ailleurs ils peuvent l'acheter en token, donc par exemple ce soit en stablecoins, par exemple en Ether, je sais pas, ou c'est vraiment plus en carte bancaire?
Ouais, bien sûr. Évidemment, nous on s'adresse à un public de 7 à 77 ans. Hein. On a pour mission d'être une boîte mainstream. Donc évidemment, les gens peuvent payer en euros chez Billy, donc par carte bancaire. Nous, on cache toute la complexité crypto. C'est nous qui allons interroger le smart contract, etc., etc. Donc on s'occupe de ça. D'ailleurs, quand tu te connectes sur Billy, tu peux te connecter avec ton wallet si tu en as déjà un, mais aussi surtout par mail si tu n'en as pas, comme n'importe quelle boîte classique. On va rendre l'expérience la plus smooth possible. Et du coup, oui, on peut payer en Tezos si on veut, on peut payer en stablecoin Tezos, on peut payer en Matic, parce qu'on est aussi sur Polygon. On a parlé de la marketplace, mais nous, on propose aussi des solutions marque blanche pour que ça soit à l'image de la marque. On a bossé avec Kenzo. On a permis, pendant la Fashion Week, de générer des invitations NFT pour une de leurs soirées pendant la Fashion Week au Cirque d'Hiver. Donc là, c'était sur Polygon. Nous, on a promis sur être multi-chain avec Billy. Et encore une fois, le parcours utilisateur, hyper simple, avec paiement en euros, si les clients le veulent.
Ok, tu disais donc deux possibilités par rapport au wallet, soit par exemple je connecte mon wallet MetaMask, si j'en ai un, soit juste je me connecte avec mon adresse mail, et dans ce cas-là, j'imagine que vous générez un wallet rattaché à cette adresse mail, donc c'est invisible, hein, j'imagine, d'un point de vue utilisateur, mais au moins l'utilisateur aura un wallet rattaché. Est-ce que vous passez par quel provider de wallet pour faire ça?
On a pas mal benchmarké les solutions qui existaient. On est parti sur une solution qui s'appelle Magic Link, qui est une jeune startup, qui est un peu plus vieille que nous, mais qui fait un super produit de wallet avec une offre assez complète.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur, elle est, un peu hybride, c'est-à-dire que soit tu veux consommer de la blockchain, soit tu n'es pas obligé, mais d'un point de vue utilisateur, c'est un peu invisible, donc c'est assez user-friendly, j'imagine. Quand vous créez les NFT sous la forme de tickets, qui paye les frais de mint, que ce soit sur la blockchain Tezos ou la blockchain Polygon, parce qu'à chaque fois, donc, on veut mettre les NFT sur la blockchain, il y a des frais associés à l'émission de ce NFT sur la blockchain. C'est vous qui les prenez en charge, enfin, c'est l'organisateur de l'événement qui les prend à sa charge, ou c'est l'utilisateur?
Non, encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir une expérience qui soit la plus smooth et la plus simple possible. Donc, c'est nous qui payons les gas fees, donc c'est nos wallets dans lesquels il y a de la crypto qui vont payer pour l'utilisateur les gas fees et faire les transactions, en tout cas quand ils payent en euros. Quand ils payent en crypto, c'est un petit peu différent, parce que là, on considère que c'est des utilisateurs crypto natifs, c'est eux qui gèrent ça. Mais sinon, nous, non, l'idée, c'est de faire que la blockchain soit quasiment invisible.
Quand tu dis, c'est vous qui prenez à votre charge, d'ailleurs, ça me fait penser à la partie un peu business model. Comment vous vous rémunérez aujourd'hui
Alors, c'est assez simple. On a trois services chez Billy. Service Billy Live, donc qui va gérer tout ce qui est achat, revente de tickets classique. Là, on va prendre un pourcentage, donc un fees sur chaque billet vendu. Ensuite, on a un service qui s'appelle Billy Engage, qui va permettre de créer des expériences token gated, donc qui veut dire seuls ceux qui ont le token peuvent bénéficier de cette expérience. Là, ça va être un modèle SaaS, abonnement à la plateforme. Et après, on a un service Billy Studio qui va permettre de proposer des expériences 100% marque blanche et d'accompagner côté créa nos partenaires.
Et par rapport à la première offre, c'est un pourcentage de combien à peu près?
Écoute, c'est entre 5 et 10% en fonction du billet et du nombre de billets émis.
Entendu. Aujourd'hui, en fait, vous êtes vraiment une alternative. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe quand tu es organisateur d'événements, mais j'imagine que tu peux avoir la possibilité d'émettre tes tickets ton événement sur plusieurs plateformes. Je vais penser par exemple à la plateforme de la Fnac, à WizEvent, à Cityket. Et corrige-moi si je me trompe hein, en termes de fonctionnement, parce que je suis pas très calé là-dessus. Est-ce que du coup, vous êtes une alternative en plus? Et dans ce cas-là, est-ce que vous proposez aussi une API pour permettre aux organisateurs d'événements d'être compatibles? Je sais pas comment ça fonctionne hein, quand on organise un événement. Est-ce qu'il y a un channel manager qui permet de dire, ouais, je vais organiser mon événement et je vais choisir telle plateforme et telle plateforme pour émettre les billets?
Ouais, bah, c'est à peu près ça, ouais, exactement. Nous, évidemment, on est compatible. Hein. Les organisateurs veulent utiliser à la fois la Fnac, WizEvent et Billy, c'est possible. On est capable de s'interfacer avec les systèmes pour qu'il y ait un contrôle d'accès fluide à l'entrée. Il n'y a pas de règle, mais en France, il y a souvent plusieurs émetteurs de billets pour un même événement, ce qui est beaucoup moins le cas à l'étranger, où c'est plus simple pour eux. Il y a toujours de l'exclusivité autour de la billetterie. Donc, en tout cas, nous, on est compatible. On n'est pas obligé de faire 100% de la billetterie si tu veux bosser avec Billy. Voilà. Par contre, si tu veux des billets sécurisés contre les marchés secondaires, etc., bah là, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Et seule notre partie de billets qu'on a émis sous la forme de NFT permettra d'apporter ça en plus.
Ok. Et est-ce qu'on peut revenir aussi sur les différents types de billets? Alors, j'ai vu sur votre site du coup que vous proposiez des avantages hein, un peu sous la forme de surprise liés à un ticket. Donc, en gros, que je peux avoir une sorte de loterie grâce au ticket NFT qui s'appelait Billy Wonka. Comment ça fonctionne et d'ailleurs, c'est assez insolite parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop ça avec des tickets classiques en général.
Ouais, bah, exactement. Le concept de Billy Wonka en référence à Willy Wonka de Charlie la chocolaterie avec ses tickets d'or. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une expérience un peu cool, un peu fun pour nos utilisateurs. Donc, on a plein d'activations qu'on va mettre en place. Billy Wonka en est une. L'idée, c'est de gamifier l'achat, de mettre des tickets d'or dans l'ensemble des tickets. Et t'as une étape qu'on appelle le reveal, qui va permettre aux utilisateurs de découvrir la rareté de leur billet, comme s'ils ouvraient leur petite tablette de chocolat, pour voir est-ce qu'ils ont le ticket dans le ticket d'or. Et le ticket d'or, ou les tickets les plus rares, évidemment, renferment des expériences un peu plus exclusives, un peu plus uniques. Il y en a une qu'on a mise en place, c'est que les 5 tickets d'or donnaient un accès backstage pendant toute la soirée. Donc les fans ont pu rencontrer les artistes, voilà. Donc, on veut vraiment penser notre plateforme comme quelque chose de cool, de fun et de créatif et de marrant à utiliser. Donc on essaie d'avoir plein de petites activations. Un autre exemple d'activation, c'est que quand tu scannes ton billet chez Billy, il peut évoluer. Il peut passer de noir et blanc à couleur, de statique à animé. Donc il peut prendre vie en fait en fonction de ce qui se passe dans ton événement.
Et en termes d'utilité, est-ce qu'aujourd'hui vous proposez d'autres avantages pour les fans du coup qui ont acheté leur ticket sur Billy, donc sous la forme de NFT? Je pense notamment tu vois, à des avantages qu'on pourrait retrouver sur une plateforme comme Tropi qui donne de l'utilité au NFT. Est-ce que vous avez un partenariat avec une telle plateforme ou au contraire vous voulez reproduire vous-même certaines utilités directement?
Ouais, bah, c'est ce qu'on fait déjà. Nous, on peut lier du contenu exclusif à nos billets. Donc il y a 8 types de contenu qu'on peut lier. Ça passe de code promo à vente exclusive, pouvoir consulter une vidéo, un clip en after movie, en avant-première, pour pouvoir écouter un son ou un album. Donc, il y a un ensemble d'utilités qui sont liées au live, à l'événement, hein, qui vont permettre à nos partenaires de prolonger un peu l'expérience de leurs fans, même après leurs événements. Donc, on a quelques features similaires à Tropi. Même si le positionnement est très 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 différent parce qu'on s'adresse exclusivement quasiment aussi à la commune Web 2 que t'as pas forcément besoin d'un wallet pour te connecter et puis c'est quand même toujours relié en fait aux marques qu'on accompagne, aux marques événementielles hein, que ce soit une marque dans le sport, une marque de luxe, une marque dans la musique.
Ça me fait penser aussi il y a pas longtemps j'ai reçu par exemple un mail de Spotify qui me disait que j'avais le droit à l'achat de place pour le concert des Red Hot Chili Peppers en avant-première. J'imagine que clairement grâce au NFT, si par exemple j'ai le NFT ticket hein, de tel événement, je pourrais recevoir en avant-première peut-être l'accès, la possibilité d'acheter en avant-première l'accès à tel prochain événement.
Ouais, exactement. Ouais, on peut whitelister en fait. C'est ça qui est intéressant aussi avec la blockchain, c'est que tu peux ajouter des whitelists, autrement dit des wallets, des adresses de wallets qui seront autorisées avant d'autres personnes à faire des actions comme acheter ou revendre un billet. Donc évidemment, on a ça chez Billy aussi, hein, ce concept de whitelist.
Je voudrais parler un peu de l'aspect stratégie. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs de concurrents. Enfin, parlait pas vraiment de concurrent, on parlait de TicketSwap. Est-ce que tu penses que demain, TicketSwap, ça peut devenir un concurrent, que TicketSwap propose un peu la même chose, ou au contraire, ça pourrait plutôt devenir un partenaire?
Alors, TicketSwap, en fait, ils émettent pas de billets, TicketSwap. C'est pas des émetteurs. Donc, il faut d'abord pouvoir émettre un billet sous la forme d'un NFT avant de pouvoir la revendre sous la forme d'un NFT. Ce qui est intéressant, c'est que le NFT, c'est un standard partagé universel avec différents protocoles. Bon, Ethereum, tu vas être sur du RC721, etc. Chaque blockchain a son protocole, mais en tout cas, c'est un standard qui permet, tu vois, un NFT sur OpenSea, je peux aussi le revendre sur Rarible, etc. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes entry points des smart contracts. Parce que t'as un standard qui est partagé. Du coup, pour moi, si jamais l'industrie du ticketing part de plus en plus vers des solutions blockchain, il n'y aurait même plus besoin de plateforme de revente. Parce qu'un NFT Billy, en fait, tu peux le revendre sur Objectkt, sur Rarible, voilà, toutes les marketplaces secondaires de NFT. Donc, de la même manière, si d'autres boîtes, une grosse boîte qui a fait ça, hein, Ticketmaster a fait un partenariat avec Flow, ils veulent aller sur la blockchain. Donc, en fait, par défaut, en fait, un NFT, c'est revendable, tu vois, sans forcément avoir besoin de développer en plus une surcouche à la TicketSwap qui va permettre d'authentifier tes billets.
Pas mal de choses par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, Ticketmaster et ce partenariat avec Flow, je crois qu'ils ont fait un premier essai dans le cadre la dernière finale du Super Bowl, où justement, en fait, tous les, je vois si je me trompe, hein, tous les propriétaires, entre guillemets, d'un ticket de la finale l'avaient reçu, je crois, sous la forme de NFT. Et par rapport à ce que tu disais, moi, ce que je me dis tout de suite, c'est finalement, si un ticket peut se revendre sur Rarible, sur OpenSea, donc sur toutes les principales marketplaces NFT, encore faut-il, ouais, que la collection soit authentifiée, parce qu'on pourrait avoir, entre guillemets, des copies de tickets, que ce soit bien tel événement qui soit, entre guillemets, authentifié, que ce soit le bon smart contract et pas un smart contract entre guillemets jumeau qui est une copie de l'événement mais qui n'est pas celui de l'événement.
Ouais, après t'as raison. Le sujet, c'est que t'as quand même beaucoup de transparence. Après, ça, il faudra d'éducation, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens vont sur le site soit de l'événement, soit de la billetterie qu'ils connaissent. C'est ça qui fera preuve de confiance. Moi, utilisateur qui vais, je sais pas, au Hellfest, en fait, je vais sur le site du Hellfest pour acheter un billet. Et ouais, je suis les liens du Hellfest.
Ouais, complètement.
Après, oui, il y a des scams dans le monde de la crypto, mais ils sont quand même essentiellement portés vers la commune crypto. Je vois pas des gens venir du Web 2, tu vois, se faire avoir de la même manière, parce que par défaut, en fait, ils sont habitués à payer en CB, ils sont habitués à pas avoir de wallet. Donc, faudrait qu'ils reproduisent vraiment toute l'expérience, ce qui est possible, mais paraît quand même peu probable.
Non, ce que je voulais dire, c'est que finalement, les marketplaces type OpenSea ont peut-être cette responsabilité d'authentifier chaque collection liée à un événement pour dire, voilà, tel smart contract, c'est le smart contract de tel événement, et entre guillemets, de l'authentifier pour dire, voilà, tous les NFT liés à cette collection-là, entre guillemets, correspondent bien à cet événement.
Ouais, bien sûr. Après, la revente, ce qui est intéressant, elle peut se passer chez Billy ou sur le site de notre client B2B, je veux dire. Donc, demain, moi, je vois pas la revente d'un billet, je sais pas, pour le Hellfest, se faire sur OpenSea, tu vois.
Ouais, content.
Il se fera sur le site Billy, si on bosse avec lui, ou sur le site du Hellfest, tu vois, directement.
Ça marche. C'est qui vos principaux concurrents aujourd'hui?
Écoute, on en a deux. Il y en a un gros qui s'appelle Yellow Earth, qui est aux US, qui est une boîte américaine, qui s'est lancée en 2018, je crois, il y a 4 ans. Et il y a une autre qui vient d'Amsterdam, européenne, qui s'appelle Guts Ticket, qui a un positionnement très très axé sur du ticketing honnête, hein, contre la revente, marché secondaire, etc. Qui sont en train de faire un petit move vers les NFT, même si c'est pas au cœur de leur produit.
Par rapport aujourd'hui à votre stratégie, déjà, c'est quoi votre roadmap produit?
Alors, roadmap produit, écoute, là, on est en train de finir la V2 du produit pour parfaire, on va dire, l'expérience utilisateur. Ensuite, on a 3 gros blocs sur lesquels on se concentre. Toutes les expériences token gated. Donc, token gated, seuls ceux qui ont le token ou le NFT, donc le billet, peuvent bénéficier de ce contenu après l'événement, etc. Donc, porté sur l'engagement, c'est un espèce de CRM Web3 qui va te permettre de fidéliser ta commu et de prolonger leurs expériences. Donc, ça, c'est le premier bloc sur lequel on bosse. Et évidemment, un gros bloc autour de solutions marque blanche. Ça va être de l'API, de l'iframe, pour pouvoir offrir des solutions juste techniques à potentiellement d'autres distributeurs, d'autres boîtes qui utilisent notre tech pour leurs propres besoins. Il y a un troisième gros bloc qui va être autour du back-office. en fait améliorer le back-office pour permettre à nos clients d'être les plus autonomes possible pour venir créer, paramétrer, vendre, distribuer et engager leurs événements.
Ok. Et aujourd'hui, la santé, finalement, qu'est-ce qui empêche des grands organisateurs d'événements, tout à l'heure tu parlais par exemple d'Orelsan, qu'est-ce qui empêche par exemple le tourneur d'Orelsan de faire toute la tournée, les tickets de toute la tournée sur Billy?
Qu'est-ce qui empêche ça? Bah, rien, à part le fait qu'on est encore petit et peu connu.
Ouais.
Donc Orelsan, c'est quand même, je pense que c'est un des top 3 artistes qui vend le plus, enfin qui vend le plus de billets en ce moment. Il fait tomber tous les sites sur lesquels qu'il utilise pour dès que les billets sont mis en ligne, parce que ça part en une fraction de seconde. Donc ça va être plus des sujets techniques. Je pense qu'ils vont le freiner, en tout cas freiner ses équipes. Bah, je pense que c'est ça, hein, essentiellement.
Okay.
C'est la taille d'événement qu'on a déjà fait. Voilà, le nombre max de billets qu'on a déjà vendus sur une heure. Enfin, c'est les sujets principaux pour les gros vendeurs, parce que évidemment, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la vente se fasse vite, facilement et bien. Donc ça va être ça nos points de contention à notre stade de développement.
Ok. Et en termes de stratégie, c'est quoi votre stratégie, votre vision à horizon 1 an, 2 ans? Tu disais que ouais, vous n'aviez pas de verticale particulière sur les événements que vous visez, donc vous visez vraiment tous les types d'événements aujourd'hui.
Ouais, bien sûr. Après, on se concentre quand même au début de notre aventure sur la musique, sur l'industrie de la fashion, de la mode, du luxe, l'industrie de l'art aussi. À chaque fois que le côté créatif et artistique est important, bah nous, ça nous parle, parce qu'on est assez sensible à ça. On a évidemment bossé pour pas mal de petits événements crypto, événements tech qui sont assez friands de nos solutions. Nous, pour l'instant, on essaie surtout de faire des événements à l'international aussi. On a fait un événement aux US, bientôt au UK l'an prochain. Donc on essaie vraiment de placer des pions dans plusieurs pays, de faire des partenariats avec des distributeurs aussi. Des grosses boîtes qui font de l'événementiel, ou des gros cabinets de conseil qui vont nous accompagner pour distribuer notre produit auprès de leurs prospects.
Par rapport à la stratégie, donc tu parlais de différentes verticales, les clubs de foot, les événements sportifs de manière générale, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête ou moins les événements sportifs? Ouais.
C'est carrément. Après, tu vois, nous, on est encore très très peu dans la boîte, hein, on est 6, donc on ne peut pas se concentrer sur toutes les verticales. Parce qu'en ce moment, on essaie de tout faire, on réussira à rien bien faire. Mais évidemment, le sport représente plus de 30% des parts de marché du ticketing au global. Et nous, moi, je suis un fan de foot, donc il y a une notion d'engagement du fan qui est très très forte. Donc évidemment, on va y aller. Mais c'est pas dans nos plans dans les mois qui viennent. Même si on est en pourparler avec une boîte comme One New. Et on essaie de rencontrer quelques acteurs sportifs voilà, pour proposer une nouvelle expérience à leurs fans.
Okay.
Mais ça viendra plutôt dans un second temps.
Ça marche. Je te propose de conclure, Robin. Une dernière question, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer aujourd'hui un projet dans le Web3?
Alors, bah, je pense que c'est peut-être intéressant de prendre un pas de recul sur ce qui s'est passé depuis ces 18 derniers mois, on va dire, où la bulle de la spéculation a éclaté, tous les projets un peu play to earn ou des projets crypto qui faisaient des levées de fonds en token, en vendant des tokens ou leur NFT, il y en a pas mal qu'on droppait. Donc moi, j'essaierai vraiment de me concentrer sur la réponse à une douleur d'une industrie. Un vrai pain en se disant mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment les NFT, la blockchain. Donc plutôt partir du besoin dans quelles industries on a un besoin de transparence, on a un besoin de désintermédiation, on a un besoin d'avoir un système qui apporte de la traçabilité, de la sécurité, voilà, plutôt que essayer de créer des tokenomics un peu compliqués avec des mécanismes de vesting avec une approche très communautaire. Moi je challenge un peu ça, mon conseil, c'est vraiment plutôt d'oublier l'aspect blockchain NFT et vraiment de partir d'un vrai pain et voir ce qu'un système qui t'apporte de la traçabilité, d'intermédiation et contrôle peut t'apporter.
Ok, top. Merci beaucoup, Robin. C'est hyper intéressant et je souhaite une bonne continuation avec Billy.
Bah, merci beaucoup, Gary. À la prochaine.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que le Web3 a désormais encore moins de secrets pour vous grâce à notre invité du jour. Bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec votre entourage, connaisseur ou non du Web3. D'ailleurs, si vous avez des recommandations d'invités pour ce podcast, vous pouvez me contacter en tapant Gary Peneza sur LinkedIn. Je vous dis à très vite dans les coulisses du Web3.